France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
L'œuvre de Franz Kafka est l'une des plus glosées du XXe siècle. Chaque roman, chaque récit, chaque lettre est passée au peigne fin pour tenter de trouver du sens dans l'œuvre parfois hermétique de l'écrivain tchèque. L'un des points d'entrée fut justement pendant un long moment celle de la critique psychanalytique. L'œuvre de Kafka regorge en effet de points d'entrée pour une telle analyse. La critique Marthe Robert, notamment, a travaillé en profondeur sur l'œuvre de Kafka, révélant comment la métamorphose, par exemple, est engendrée à partir de la littéralisation d'une insulte, « vermine de juif ». L'animalité, mais aussi le rôle du père, la présence parfois inquiétante des personnages féminins, sont autant d'aspects qui semblent légitimer une telle approche. Mais il ne faut pas oublier que Kafka lui-même est un lecteur de Freud, et qu'il joue avec ses codes, voire s'en moque. C'est en effet l'une des manifestations de cette ironie presque absurde, caractéristique de ses écrits. C'est donc à une sorte de psychanalyse de l'œuvre de Kafka, reliée à son héritage juif notamment, que se livrent Stéphane Moses, Denis Calparine, Philippe Lacoulabarthe, Anka Geifman et Alain Robbe-Grillet, dans ce quatrième épisode de la journée France Kafka d'Isabelle Huel, Jacques Taroni et Jean Dave, diffusé pour la première fois sur France Culture le 17 septembre 1983. L'occasion de découvrir les différentes approches critiques qui se sont agrégées autour de cette œuvre riche et singulière. Kafka, entre religion et psychanalyse, c'est tout de suite dans les nuits de France Culture.
Comment avez-vous découvert Kafka ?
Oh, vous savez, moi j'ai découvert Kafka très jeune. À l'époque, j'étais lycéen, c'était dans les années, la fin des années 49, enfin début des années 50, et c'était le moment de la grande, de la découverte de Kafka en France après la guerre. C'était le moment des traductions, des grandes traductions des œuvres de Kafka en français. C'était un peu dans le mouvement, si vous voulez, vous savez, de l'existentialisme, tout ça, qui à ce moment-là a redécouvert Kafka. C'est comme ça que j'ai lu Kafka. Mais je crois que ça n'est pas tellement intéressant de savoir comment j'ai découvert Kafka, parce que au fond, Kafka est un auteur tellement grand que tout le monde le découvre un peu à un moment ou à un autre de son histoire. Mais je crois que pour continuer un peu la réflexion amorcée par Anka Geifman sur les problèmes d'identité que pose l'œuvre de Kafka, et surtout en Israël. Je crois que là, il y a quelque chose de très important, parce que on peut dire que Israël vit aujourd'hui, enfin, les Juifs en Israël vivent aujourd'hui un moment de crise extrêmement grave dans la définition de l'identité juive, de leur propre identité, si vous voulez. Cette crise est vécue par les Juifs du monde entier, mais elle est vécue certainement la puissance 2 ou 3 ici en Israël. C'est-à-dire que on peut dire que l'immense majorité des Juifs a abandonné la religion, les croyances religieuses, est sorti du monde protégé et bien défini, si vous voulez, de la croyance, de l'orthodoxie religieuse, d'une part. Mais que d'autre part, on ne peut pas dire pour autant que cette majorité de Juifs ait envie ou ait la possibilité même de se désidentifier complètement et de se fondre dans l'anonymat. Et la question donc se pose, qu'est-ce que c'est qu'être juif, si vous voulez, dans une époque sans Dieu? En fait, c'est un peu comme ça. Et c'est la question fondamentale de Kafka lui-même. Qu'est-ce qu'être homme dans un monde sans Dieu? Et qu'est-ce qu'être homme est vécu de façon paroxysmale à travers sa condition d'être hybride, etc.
Oui, enfin, il y a une grande circulation d'objets chez Kafka.
Il y a une énorme circulation d'objets.
Est-ce que vous rangeriez la loi, les tribunaux, parmi ces objets ?
Ah, certainement. Il y a une énorme circulation d'objets. Par exemple, une des scènes les plus impressionnantes de la métamorphose, c'est le déménagement des meubles dans l'appartement de la famille Samsa. Il y a effectivement une énorme agitation, mais c'est du surplace, une agitation stérile. Dans la plupart des romans de Kafka, les gens tournent en rond comme des mouches prises au piège, en déménageant constamment leurs objets, leurs meubles. Ils ne vont pas très loin avec ça, mais enfin, ils essayent désespérément de fuir quelque chose.
Thank you. Strasbourg, Philippe Lacoulabarthe.
La métamorphose. Un matin, au sortir d'un rêve agité, Grégoire Samsa s'éveilla transformé dans son lit en une véritable vermine. Il était couché sur le dos, un dos dur comme une cuirasse, et en levant un peu la tête, il s'aperçut qu'il avait un ventre brun en forme de voûte, divisé par des nervures arquées. La couverture, à peine retenue par le sommet de cet édifice, était près de tomber complètement, et les pattes de Grégoire, pitoyablement minces pour son gros corps, papillotaient devant ses yeux. « Que m'est-il arrivé ?» pensa-t-il. Ce n'était pourtant pas un rêve. Sa chambre, une vraie chambre d'homme, quoique un peu petite à vrai dire, se tenait bien sage entre ses quatre murs habituels. Au-dessus de la table, où s'étalait sa collection d'échantillons de tissus, Grégoire était voyageur de commerce, on pouvait toujours voir la gravure qu'il avait découpée récemment dans un magazine et entourée d'un joli cadre doré. Cette image représentait une dame assise bien droit, avec une toque et un tour de cou en fourrure. Elle offrait au regard des amateurs un lourd manchon dans lequel son bras s'engouffrait jusqu'au coude. Grégoire regarda par la fenêtre. On entendait des gouttes de pluie sur le zinc. Ce temps brouillé le rendit tout mélancolique. Si je me rendormais encore un peu pour oublier toutes ces bêtises, pensa-t-il. Mais c'était absolument impossible. Il avait l'habitude de dormir sur le côté droit et ne pouvait parvenir, dans sa situation présente, à adopter la position voulue. Il avait beau essayer de se jeter violemment sur le flanc, il revenait toujours sur le dos avec un petit mouvement de balançoire. Il essaya bien 100 fois en fermant les yeux pour ne pas voir les vibrations de ses jambes, et n'abandonna la partie qu'en ressentant aux côtés une sorte de douleur sourde qu'il n'avait jamais éprouvée. Quel métier, pensa-t-il, quel métier suis-je allé choisir? Tous les jours en voyage, des ennuis pires que dans le commerce de mes parents, et par-dessus le marché cette plaie des voyages, les changements de train, les correspondances qu'on rate, les mauvais repas qu'il faut prendre n'importe quand, à chaque instant des têtes nouvelles, des gens qu'on ne reverra jamais, avec lesquels il n'y a pas moyen d'être camarade. Que le diable emporte la boîte. Il sentit une petite démangeaison en haut du ventre. S'approcha un peu plus du bois du lit en se traînant lentement sur le dos pour pouvoir mieux lever la tête et aperçut, à l'endroit qui le démangeait, toute une série de petits points blancs auxquels il ne comprit rien. Il essaya de tâter l'endroit avec une de ses pattes, mais il dut la retirer bien vite car ce contact lui donnait des frissons glacés. Il reprit sa position première. Il n'y a rien d'aussi abrutissant, pensa-t-il, que de se lever toujours si tôt. L'homme a besoin de son sommeil. Et dire qu'il y a des voyageurs qui vivent comme des femmes de harem. Quand je retourne à l'hôtel l'après-midi pour noter les commandes, je trouve ces messieurs qui n'en sont encore qu'à leur petit déjeuner. Je voudrais voir ce que dirait mon chef si j'essayais chose pareille. Je serais congédié immédiatement. Qui sait d'ailleurs si ce ne serait pas une bonne affaire? Si je ne me retenais à cause de mes parents, il y a longtemps que j'aurais donné ma démission. Je serais allé trouver le patron, et je ne lui aurais pas mâché les choses. Il en serait tombé de son bureau. Voilà encore de drôles de manières, s'asseoir sur le bureau pour parler aux employés du haut d'un trône, surtout quand on est dur d'oreille et qu'il faut que les gens s'approchent tout près. Enfin, tout espoir n'est pas perdu. Une fois que j'aurai réuni la somme que mes parents lui doivent, cela demandera bien 5 ou 6 ans, je ferai certainement le coup. Et alors, un point, on tourne la page. En attendant, je dois me lever pour le train de 5 heures.
J'ai l'impression que Kafka a introduit, si vous voulez, que cette espèce de mystère de l'œuvre de Kafka est un mystère volontaire, enfin, et que Kafka a introduit volontairement dans son, d'abord des pièges et des choses trappes, enfin, dans son œuvre, c'est évident, mais que d'autre part.
C'est à quoi ?
Ah ben je vais y venir justement, mais qu'il a, je vais y venir tout de suite, mais il a introduit un certain nombre de codes. Mais il les a introduits consciemment. Alors, le code religieux, par exemple, c'est-à-dire la référence au problème de Dieu, au problème de l'interprétation, au problème de la loi, ce sont des choses qu'il a introduites consciemment parce qu'il en a fait des objets de sa narration.
Stéphane Moses.
De même, par exemple, les thèmes psychanalytiques. Quand on psychanalyse l'œuvre de Kafka, par exemple, comme l'a fait remarquablement Marthe Robert, par exemple. Mais il ne faut jamais oublier que le psychanalyste ne dit pas la vérité sur l'œuvre de Kafka. Kafka lui-même a introduit des signaux de type psychanalytique. Consciemment, il connaissait Freud, il avait lu ce que Freud avait publié à l'époque, enfin, pas tout, mais il avait lu des choses. Dans son journal, il se réfère à Freud. Lorsqu'il parle, par exemple, du verdict, il dit, de toute évidence, j'ai introduit là des thèmes freudiens. Et alors, par exemple, dans la Métamorphose, où les interprètes psychanalysants se sont jetés là-dessus en disant inceste, transgression de l'inceste, Édipe, etc. Mais Kafka a joué avec ça. C'est ce que je voulais dire lorsque je disais piège. Alors, le problème religieux, lui aussi, ça veut dire, ça ne veut pas dire que ça n'existe pas, que c'est pas important. Ça veut dire que Kafka jouait avec de multiples possibilités culturelles de son époque. Et qu'il les a codés dans le texte. Et alors les interprètes se jettent sur telle ou telle chose selon leur sensibilité. Toutes ces choses-là, toutes ces démarches interprétatives sont vraies, mais elles sont toutes vraies en même temps. Elles s'entrechoquent, elles s'annulent parfois, elles créent des labyrinthes dont il est très difficile de sortir et que Kafka a dessiné.
Quand on lit Kafka disons, superficiellement, je veux dire très rapidement, sans aucune charge morale, métaphysique, on est assez frappé par l'importance donnée au nom propre. Bon, parfois c'est juste cas, et parfois pour une seule page, il y a quatre ou cinq personnages avec des noms propres inouïs. Et par ailleurs, il y a aussi cette volonté de rendre des personnages, de les pousser dans l'invisibilité, dans quelque chose de tout à fait anonyme, se confondant avec la foule.
Là, je crois, peut-être la personnage se clame. Et encore une fois, il faudra aborder Kafka avec l'aide du tchèque. Parce que clame en tchèque, c'est l'illusion. Nous savons qu'on ne voit jamais Clam. Tout ce qui est constant chez Clam, c'est son manteau noir. Il est là, mais tout ce qu'on peut voir, c'est une illusion. C'est ce que vous avez dit, enfin, n'est pas superficiel, mais c'est ça, c'est là. Je crois que Kafka est très explicite sur ce niveau-là. On les voit, on peut voir ce qui est là. Il faut accepter le fait que nous vivons dans une illusion, la majorité des temps.
Mais vous ne croyez pas qu'il y a là aussi une circulation, non pas des objets, mais des personnages, mais parallèles?
Certainement, oui. Justement, Hanka Gaifman a analysé un des sens tchèques du nom de Klam, et les noms propres sont chargés alors de niveaux de signification chez Kafka multiples, comme les objets, comme tout le reste. Et moi, j'étais très frappé par quelque chose. On sait que le personnage principal des romans de Kafka, enfin des deux grands romans de Kafka, s'appelle Joseph K. On a beaucoup parlé de ce K. On a dit ce K, c'est la première lettre de Kafka, etc. Ce qui est bien possible à un certain niveau. Mais à un autre niveau, on sait que Kafka était... Ça, c'est une explication peut-être possible parmi beaucoup d'autres, a été extrêmement influencé par une œuvre d'un auteur qu'il aimait beaucoup, qui s'appelle Kleist, Heinrich von Kleist, qui s'appelle Michael Kohlhaas, qu'il aimait beaucoup, cette œuvre, dont il a fait une lecture publique à Prague en 1913, et qu'il citait tout le temps. D'ailleurs, on voit qu'il a étudié les procédés d'écriture de Kleist et qu'il s'en est inspiré. Eh bien, dans Michael Kohlhaas, on peut dire que tous les personnages principaux ont leur nom qui commence par K. Et c'est véritable. Kleist, d'ailleurs, le nom commence par K aussi. Et il y a là, est-ce que c'est un jeu littéraire? Est-ce que c'est un jeu de cache-cache de l'auteur avec ses personnages? Est-ce qu'il y a un hommage là de Kafka à Kleist? Est-ce qu'il y a un hommage de Kafka à Michael Kohlhaas? C'est très compliqué, mais je crois que tout c'est... Là, il y a une véritablement circulation du sens dans les noms propres, par exemple, enfin.
Il ne se souvenait plus d'avoir entendu jouer sa sœur depuis l'arrivée des locataires. Mais ce soir-là, le son du violon retentit à la cuisine. Les trois messieurs venaient de terminer leur repas. Celui du milieu avait sorti un journal et distribué une des feuilles à chacun des deux autres. Maintenant, ils lisaient tous trois en fumant, renversés sur le dossier de leur chaise. Le son du violon éveilla leur attention, ils se levèrent et se dirigèrent sur la pointe des pieds vers la porte du vestibule, où ils firent halte en groupe serré. Malgré toutes leurs précautions, on les avait entendus de la cuisine, car le père se mit à crier. « Est-ce que le violon gêne ces messieurs? On pourrait le faire cesser tout de suite. » « Mais au contraire, répondit le monsieur du milieu, si mademoiselle voulait venir chez nous, dans la salle à manger, elle y serait mieux, c'est plus confortable. » « Mais bien sûr, s'écria le père, comme si c'était lui qui jouait. » Les messieurs entrèrent donc dans la salle et attendirent. Le père arriva bientôt avec le pupitre, la mère avec la musique et la sœur avec le violon. La sœur prépara tranquillement ses partitions. Les parents, qui, louant leur chambre pour la première fois, exagéraient la politesse envers leurs hôtes, craignirent de se montrer grossiers en utilisant leur propre siège. Le père s'appuya donc contre la porte, une main entre les boutons de sa livrée, mais l'un des messieurs offrit une chaise à la mère qui n'osa pas la changer de place et resta assise à part, dans un coin, durant le reste de la séance. La fille se mit à jouer tandis que le père et la mère observaient de deux côtés différents le mouvement de ses mains. Attiré par la musique, Grégoire, audace, s'était avancé légèrement et il avait déjà toute la tête dans la salle. Il ne se tenait pas d'avoir perdu dans les derniers temps cette perpétuelle crainte de gêner qui faisait autrefois son orgueil. Et pourtant, il n'avait jamais eu tant de raisons de se cacher, car avec les saletés qui s'étalaient dans sa chambre et qui volaient au moindre mouvement, il était toujours couvert de poussière, de bouts de fil, de cheveux, de restes de mangeaille qui se collaient sur son dos ou sur ses pattes et qu'il traînait partout avec lui. Son apathie était devenue bien trop grande pour qu'il songeât encore à se nettoyer plusieurs fois par jour comme autrefois en se frottant sur le tapis. Et sa saleté ne l'empêcha pas d'avancer encore sans vergogne sur le plancher immaculé. Il faut dire aussi que personne ne l'avait remarqué. La famille était trop absorbée par le violon et les locataires, qui s'étaient d'abord installés les mains dans les poches, beaucoup trop près du pupitre, ce qui gênait forcément la sœur, obligée ainsi de voir danser leur image au milieu des notes, avaient vite fini par se retirer, en bavardant à mi-voix, la tête baissée, vers la fenêtre où ils restèrent décidément sous le regard préoccupé du père qui les observait attentivement. Il était devenu trop évident qu'ils avaient été déçus dans leur espoir d'entendre un bon morceau de violon, ou tout au moins une petite mélodie amusante, que tout cela les fatiguait, et qu'ils n'acceptaient plus le dérangement que par politesse. À la façon dont ils soufflaient la fumée de leur cigare, à l'énergie avec laquelle ils l'envoyaient au plafond par le nez ou par la bouche, on devinait leur agacement. Et la sœur jouait pourtant si bien. Le visage penché de côté, elle suivait sa partition d'un regard si profond, si triste. Grégoire avança un peu et approcha la tête le plus possible du sol pour essayer de rencontrer ce regard. N'était-il donc qu'une bête? Cette musique l'émouvait tant. Il avait l'impression qu'une voie s'ouvrait à lui vers la nourriture inconnue qu'il désirait si ardemment. Il était décidé à se frayer un chemin jusqu'à sa sœur et à la tirer par la robe pour lui faire comprendre qu'il fallait venir chez lui parce que personne ici ne récompensait sa musique par l'admiration qu'il saurait lui témoigner. Il ne la laisserait plus sortir de sa chambre, tout au moins tant qu'il vivrait. Pour une fois, sa forme horrible lui servirait à quelque chose. Il serait à toutes les portes à la fois, repoussant les agresseurs de son souffle rauque. Entendons-nous, il ne voulait pas obliger sa sœur à rester chez lui. Elle devait y demeurer volontairement, s'asseoir près de lui sur le canapé et lui prêter enfin l'oreille. Alors, il lui dirait en confidence qu'il avait eu l'intention bien arrêtée de l'envoyer au conservatoire et qu'il lui déclarait cela devant tout le monde sans s'inquiéter des objections, pas plus tard qu'à la Noël dernière. La Noël était bien passée. Si le malheur n'était survenu si tôt. La sœur, émue par cette explication, éclaterait sûrement en larmes, et Grégoire, grimpant alors jusqu'à son épaule, l'embrasserait sur le cou. Ce serait d'autant plus facile qu'elle ne portait plus ni col ni ruban. Depuis qu'elle allait au magasin, elle était toujours décolletée. Monsieur Samsa, cria le monsieur du milieu en montrant de l'index Grégoire qui s'avançait lentement. Le violon se tut brusquement. Le monsieur du milieu se retourna vers ses amis avec un sourire accompagné d'un hochement de tête, puis ramena les regards sur le fils. Le père sembla trouver plus urgent de rassurer ses locataires que de chasser son fils de la chambre, bien que les messieurs ne parussent nullement émus du spectacle et que Grégoire eut même l'air de les amuser beaucoup plus que le violon. Le père courut, les bras en croix, sur les trois messieurs qu'il tâcha de refouler dans leur chambre tout en leur cachant la vue de Grégoire avec son corps. Ils commencèrent alors à se fâcher réellement, mais on ne savait plus si c'était à cause du père ou à cause du voisinage qu'on leur avait imposé à leur insu et dont ils prenaient brusquement conscience. Thank you.
silencieux et les femmes trahissent. Est-ce que ces deux attitudes humaines sur l'échiquier kafkaïen vous semblent compatibles avec Kafka?
Ah oui, tout à fait. Si vous voulez, je m'intéresserai surtout au père, là. Je suis un peu expert en père, et de part et d'autre, ayant été fils et étant père. Et il y a une chose très, très importante. La relation de Kafka à son père, telle qu'elle s'exprime dans La lettre au père et dans d'autres œuvres de Kafka, est parallèle. Est un fait social d'une extrême importance et très général à l'époque, dans les familles juives. Et elle a ses parallèles dans bien d'autres écrivains qui ont laissé des témoignages à cette époque-là. Et c'est une chose qui m'a beaucoup frappé. Il y a là une espèce, si vous voulez, de fondement culturel de l'Œdipe. Je veux dire que c'est peut-être pas un hasard que Freud, juif autrichien, ait inventé l'Œdipe à une époque de crise de la famille juive et de la transmission des valeurs juives en Europe centrale. On a des exemples comme celui de Walter Benjamin, par exemple, qui a été pratiquement fichu à la porte par son père. Et on a l'exemple de Gershom Scholem, qui a été à 17 ans expulsé de la maison familiale par son père, avec 100 marques en poche, lui disant « Mon fils, faites ce que vous voulez, je ne vous connais plus ». Et il y a là toute une série de personnages historiques qui ont connu la même crise avec leur père, pour des raisons, à mon avis, sociales tout à fait évidentes. La rupture brutale d'une structure sociale, les parents, ces pères-là, étaient presque toujours des petits boutiquiers ou des commerçants, enfin c'était des gens qui n'étaient pas ce qu'on appelle des intellectuels. D'une part, d'autre part, ils étaient plus ou moins reliés à la tradition juive, mais presque toujours d'une façon assez maladroite, sinon malhonnête, enfin. Et puis, ces fils-là, en général, étaient des gens qui inauguraient une sensibilité, et puis leur condition sociale était très différente. C'était la plupart de ces gens-là, comme Kafka, comme Scholem, comme Benjamin, des gens qui se destinaient à la vie intellectuelle, c'est-à-dire à ne pas gagner d'argent, à devenir des bohèmes aux yeux de leur père, à être des inutiles, des parasites.
Historiquement, non seulement les pères ne répondaient pas à l'attente des fils, de même que les fils ne répondaient pas à celle des pères, mais les femmes étaient celles qui avaient cet amour, de la littérature allemande, et qui, depuis le XVIIIe siècle déjà, des femmes juives qui avaient joué un véritable rôle.
C'est tout à fait exact. Ça, c'est l'autre aspect des fondements culturels de l'Œdipe. Fondements culturels de l'Œdipe, c'est tout à fait vrai ce que vous dites. Dans des familles comme celle de Kafka, ou de Scholem, ou de Walter Benjamin, c'est la mère qui a transmis les valeurs de la culture universelle, allemande en l'occurrence. Et les femmes étaient plus évoluées, plus émancipées que leurs maris, et les fils trouvaient auprès de leur mère d'abord un refuge affectif, ce qui est tout à fait évident, par exemple, dans l'autobiographie de Scholem, par exemple, ou chez Kafka, ou chez Walter Benjamin, dans une certaine mesure, mais aussi la mère jouait le rôle de l'initiatrice, à une culture qui était bien sûr une culture extérieure à celle du judaïsme, mais qui apparaissait en même temps comme un monde merveilleux, quoi, comme un monde rêvé.
Je connais les pays. Moi, je vais. Il y a les jeunes du mois de la madame. Il y a...
Ils décidèrent immédiatement de consacrer cette journée au repos et à la promenade. Ils avaient bien mérité ce répit, ils en avaient surtout un besoin indispensable. Ils s'assirent donc à la table pour écrire 3 lettres d'excuses. Monsieur Samsa à son directeur, Madame Samsa à son patron et Grete à son chef de rayon. La femme de peine entra en cours de séance pour déclarer que son travail était fini et qu'elle s'en allait. Les 3 épistoliers se contentèrent d'abord de hocher la tête sans lever les yeux. Mais comme la vieille ne se décidait pas à partir, ils finirent par lâcher leurs plumes pour lui lancer un regard de mauvaise humeur. « Eh bien ?» demanda M. Samsa. La femme de peine était plantée sur la porte, souriante, comme si elle avait un grand bonheur à le renoncer, mais qu'elle ne voulut parler qu'après s'être fait prier longtemps. La petite plume d'autruche qui ornait presque verticalement son chapeau et qui avait toujours agacé M. Samsa depuis que la femme était à son service, oscillait légèrement dans toutes les directions. « Eh bien, qu'y a-t-il donc ?» demanda Madame Samsa, à qui la vieille avait toujours témoigné plus de respect qu'aux autres. « Ah, voilà, » répondit-elle, secouée d'un rire d'amitié qui l'empêcha de poursuivre immédiatement son explication. « Eh bien, il ne faut pas vous tracasser pour emporter le machin d'à côté, c'est déjà réglé. » Madame Samsa et Grete se penchèrent de nouveau sur leurs lettres, comme pour continuer à écrire. Monsieur Samsa, remarquant que la femme allait commencer à se jeter dans une explication détaillée, fit signe de sa main tendue pour couper court énergiquement à tout récit. Alors, ne pouvant raconter, elle se rappela brusquement qu'elle était très pressée, lança un « Adieu tout le monde » vexé, exécuta un demi-tour en coup de vent et disparut en faisant claquer sauvagement les portes. « Ce soir, on la congédie », déclara M. Samsa. Il n'éveilla d'ailleurs aucun écho, ni chez sa femme, ni chez Grete. La vieille n'avait pu réussir à troubler leur paix trop fraîchement reconquise. Elles se levèrent, allèrent à la fenêtre, et restèrent là, enlacées. M. Samsa, se tournant vers elles dans son fauteuil, les observa un instant en silence. Puis il cria. « Allons, venez. Ne ruminez donc plus comme ça les vieilles histoires. Vous pouvez bien penser un peu à moi. » Ces femmes lui obéirent aussitôt, elles se précipitèrent sur lui, le couvrirent de caresses et se dépêchèrent de finir leurs lettres. Ensuite, ils quittèrent en chœur l'appartement, ce qui ne leur était plus arrivé depuis des mois, et ils allèrent prendre le tramway pour filer à la campagne. Dans la voiture, il n'y avait pas d'autres voyageurs. Elle était toute ensoleillée, il y régnait une douce chaleur. Confortablement appuyés à leur dossier, ils discutèrent leurs chances d'avenir. Il se trouva qu'à y regarder de près, ses chances n'étaient pas, mon Dieu, tellement mauvaises. Car, c'était un point sur lequel ils ne s'étaient jamais encore expliqués à fond, ils avaient trouvé tous les 3 des situations vraiment intéressantes et qui promettaient surtout beaucoup pour plus tard. La plus grosse amélioration de leur situation actuelle, ils l'obtiendraient en déménageant immédiatement. Ils loueraient un appartement moins cher et plus petit, mais plus pratique et surtout mieux situé que leur logement présent qui avait été choisi par Grégoire. En regardant parler leur fille, qui s'animait de plus en plus, Monsieur et Madame Samsa remarquèrent presque en même temps que Grete, malgré les crèmes de beauté qui lui avaient fait les joues pâles, s'était considérablement épanouie dans les derniers mois. C'était maintenant une belle jeune fille aux formes pleines. Leur expansion se calma un peu. Ils échangèrent presque inconsciemment des regards qui se comprirent. Ils songèrent tous deux qu'il allait être temps de lui trouver un brave mari. Et il leur sembla voir dans le geste de leur fille une confirmation de leur nouveau rêve, un encouragement à leurs bonnes intentions, quand, au terminus du voyage, la petite se leva la première pour étirer son jeune corps. « Et alors, ça, c'est pas du. Je crois pas que ce soit du tout un hasard. Ici, on peut dire qu'il a écrit 10 ans, 20 ans ou 30 ans avant ce qui allait devenir le destin de l'Europe. Enfin, c'est. Ce destin-là le traversait entièrement. Et il suffisait qu'il écrive ses malheurs privés les plus intimes pour qu'immédiatement son texte prenne des proportions historiques monumentales.
Philippe Lacoulabarthe.
C'est à la fois un écrivain intimiste et monumental, ce qui d'ailleurs est tout à fait extraordinaire et très, très rare. Blanchot vient de dire récemment que une espèce de mot aimante tout ce qu'a écrit Kafka, c'est Auschwitz. Mais Auschwitz, c'était effectivement ce nihilisme accompli. Et ce mouvement-là avait déjà, je crois du moins, traversé entièrement Kafka.
Et curieusement, chez Kafka, il y a une volonté d'écrire, mais il y a aussi une volonté d'être écrivain sans trace d'écriture, sans écriture, sans écrit.
Ben oui, là encore, il y a un rapport tout à fait, disons encore, maladif. À l'écriture, enfin, Kafka a exacerbé l'impossibilité de l'écriture ou l'impossibilité artistique en général que les modernes ont éprouvé.
Vous avez choisi de nous lire la métamorphose, enfin quelques pages de la métamorphose, qui est un fantasme. Enfin, il y a un devenir animal. Est-ce que c'est une obsession chez lui? La transformation animale. Et ça correspond à quoi?
Ah, d'abord, que ce soit une obsession, certainement. Enfin, la vermine, le chien, le blaireau... Il y a toute une espèce de bestiaire et toujours des animaux au bas de la hiérarchie animale. Et un fantasme assez constant et récurrent de métamorphose. Bon. Alors, j'ai dit fantasme tout à l'heure parce que j'étais en train de dire malade. Maintenant, c'est certainement pas seulement un fantasme. Moi, je suis frappé par deux choses. La première, c'est celle que Marthe Robert avait soulevée dans son Kafka il y a quelques années, le premier qu'elle avait écrit. Lorsqu'elle avait montré, je trouvais ça, il me semblait que c'était une démonstration extraordinairement juste, lorsqu'elle avait montré que Kafka engendre un récit à partir de la littéralisation, non pas d'une métaphore, comme on aurait pu le faire encore dans l'âge classique ou baroque, mais tout simplement d'une insulte. Bon, vermine de juif ou chien de juif, et immédiatement, Kafka écrit tout un récit où le héros est une vermine, ou est un chien. Puis la deuxième chose, c'est, bon, étant donné que c'est quand même un... Je ne veux pas donner à entendre que c'est un écrivain mystique, mais c'est un écrivain qui avait un savoir assez précis de la tradition religieuse, et qui d'ailleurs s'est débattu dans des problèmes difficiles par rapport à cette tradition. Je crois que Kafka, au fond, tente une espèce contre-métaphysique dans des récits de ce genre. Bon, il se transforme en animal, enfin, son héros se transforme en animal, et l'animalité qui, bien entendu, sert d'exposant ou de révélateur prodigieux des rapports sociaux, dans la métamorphose, en l'occurrence, des rapports familiaux, l'animalité est quand même décrite, décrite, et c'est particulièrement évident, il me semble, dans le passage sur la musique, quand la jeune sœur joue du violon, de telle sorte qu'elle apparaît comme une espèce d'expérience privilégiée du beau. Grégoire Samsa perd tout, ne mange plus, se cache, reste immobile pendant des heures, et puis la seule chose qui lui reste, c'est quand la jeune sœur joue du violon, à ce moment-là, il est quasiment ému, jusqu'aux larmes, si on peut parler des larmes d'une vermine. Et là, je crois que Kafka, qui d'autre part a écrit des textes sur le rapport, sinon divin, du moins à quelque chose de transcendant, par exemple la loi, là, Kafka recherche quelque chose du côté d'une transcendance paradoxale, une transcendance par-dessous. Dans l'animal, et l'animal le plus vil, le plus sale, le plus repoussant, bon, il se produit quelque chose que finalement l'humanité elle-même a perdu.
L'animalité chez Kafka est à comparer à la loi, vous croyez ? Enfin, sont deux fantasmes.
Je dirais plutôt deux postulations. Bon, la double postulation, je crois quand même que c'est ce qui... C'est vite dit, mais c'est ce qui ordonne, la conscience artistique moderne dans le nihilisme. Une postulation proprement transcendante, rendue impossible, et qui se transforme immédiatement en fascination vers le bas. Bon, du moins dans un certain nombre d'écrivains, Baudelaire bien sûr, Bataille, je crois que ça traverse beaucoup certains récits de Blanchot aussi. Bon, on retrouve constamment cette espèce de d'écartèlement. Et la métamorphose, qui est une espèce de récit spirituel, et d'autant plus spirituel que son réalisme est imperturbable, et que Kafka a repris avec une maîtrise extraordinaire toute la grande tradition de la prose fantastique allemande. Bon. C'est un récit... Bon, j'ai l'impression que c'est un récit sur... sinon sur l'art, au moins sur le beau. Et peut-être le plus fort de tous ceux qui ont été écrits dans l'époque moderne.
Philippe Lacoulabart, que pensez-vous de la correspondance de Kafka avec Otla, sa sœur, Milena, Felice, c'est-à-dire des femmes?
Très redoutable question. Bon, je crois quelque chose de très très simple, et mais qu'il faut quand même dire, Kafka était incapable d'avoir un rapport avec autrui, et c'est particulièrement dramatique avec les femmes. Alors ces lettres, c'est une suite de manœuvres à la fois rusé, parce que Kafka se protège d'un danger inouï, et d'une naïveté absolue, parce que Kafka est un être qui voudrait aimer, et qui, je crois d'ailleurs, a aimé très très profondément. Donc c'est cette espèce de mélange de ruse et d'amour qui aboutit à chaque fois un échec radical. Enfin, il ne peut pas entretenir de rapport. Bon, ce qui est atteint en lui, ce qui fait son... à anormalité, bon, c'est-à-dire ce qu'il a écrit constamment, je suis anormal. Ce qui fait son anormalité, c'est d'abord ça. Et ça, il l'a lié, je crois, de manière très sûre au fait d'écrire. C'est aberrant d'écrire. C'est pour ça que je trouve bouleversante la fin de la métamorphose et encore plus bouleversante que, mettons, la fin de l'éducation sentimentale. C'est le jeune corps de la sœur enfin délivré de cette espèce de frère artiste vermine qui la phagocyte et qui réclame tout son amour alors qu'il est incapable de rien lui donner. Bon, je crois que c'est ça d'abord qu'il écrit, que c'est une expérience, mais absolument concrète. Non seulement je n'ai pas de rapport avec les autres, mais même dans mes tentatives de me rapporter aux autres, je ne peux faire qu'une chose, c'est les empêcher de vivre. Et donc je gâche tout, immanquablement. Alors je crois que dans son expérience avec les femmes, c'est une expérience absolument calamiteuse. Surtout celle avec Milena.
Kafka veut aimer ou veut être viril?
Non, je crois qu'il veut aimer, alors que dans la situation qu'il connaissait, que nous connaissons encore, si je ne me trompe pas, les choses puissent se confondre à un certain niveau.
Est-ce qu'il est amoureux?
Oui, j'ai l'impression. Oui. Mais en même temps, il est amoureux, mais il a peur. Kafka est quelqu'un qui a peur de l'existence. Et donc d'abord d'autrui, parce que c'est ça l'existence.
Alors, je fais quoi?
Vous ne lisez pas la première page du procès?
Si, si. Si je vous ai dit que les pages que j'ai choisies étaient les pages malheureusement les plus célèbres.
Alain Robbe-Grillet, le procès.
Je comprends pas ce que j'ai écrit, malheureusement. C'est ça l'ennui. Je crois que c'est seulement la première phrase que je veux lire.
Vous ne lisez que la première phrase du début du procès.
Attendez. On avait sûrement calomnié Joseph K., car, sans avoir rien fait de mal, il fut arrêté un matin. Alors, dans cette première phrase, il y a déjà quelque chose de tout à fait remarquable. C'est le premier mot qui est « on ». Parce que, dans tout le reste du texte, il y a une espèce de on qui plane. On ne sait pas qui l'a calomnié, mais on ne sait pas non plus qui l'arrête, on ne sait pas qui l'accuse, on ne sait pas de quoi il est accusé. Et d'un bout à l'autre de son récit, parce que c'est lui-même qui fait son récit, on sent planer cet autre sans nom. Alors bon, c'est assez amusant de le comparer à un récit qui commence par un « il » ou un récit qui commence par un « nous », un récit qui commence par un « je ». Commencer un récit par un « on ». Évidemment, je n'ai pas le texte allemand, donc je ne sais pas, mais je crois que c'est le premier mot aussi du texte allemand, « man ». On avait sûrement calomnié Joseph K. Avec en plus une tournure grammaticale là, dans la phrase de Vialat, je ne sais pas si elle est dans la langue allemande, mais le passage du « il » au « on ». On n'avait sûrement calomnié Joseph K., car sans avoir rien fait de mal, il fut arrêté un matin. Sans avoir rien fait de mal, qui se rapporte au narrateur. Alors, le narrateur est un « il », hein, il ne dit jamais « je ». Mais néanmoins, c'est une sorte de « je » dans le procès. Tout est vu, tout est pensé, tout est noté, tout est vécu, tout est rapporté par Joseph K. Par conséquent, le « on » prend déjà un sens très particulier. C'est Joseph K. qui parle. « On m'a sûrement calomnié. » Bon. Alors, je vais lire. Je ne vais pas lire les premières pages. Bon, on vient l'arrêter. On vient l'arrêter. C'est-à-dire, on vient lui signifier son arrestation. Alors, il tient à se justifier auprès de sa logeuse, en quelque sorte, parce qu'être arrêté, quand même, ça n'est pas très bien pour un locataire aussi distingué que lui, et fondé de pouvoir d'une banque, etc. Et la logeuse lui avoue que d'ailleurs elle est au courant puisqu'elle a écouté derrière la porte. J'ai donc entendu quelques petites choses, mais rien de bien grave, on ne peut pas dire. Je sais bien que vous êtes arrêté, mais ce n'est pas comme on arrête les voleurs. Quand on est arrêté comme un voleur, c'est grave. Tandis que votre arrestation, elle me fait l'impression de quelque chose de savant. Excusez-moi si je dis des bêtises. Elle me fait l'impression de quelque chose de savant que je ne comprends pas, c'est vrai, mais qu'on n'est pas non plus obligé de comprendre. « Ce n'est pas bête du tout ce que vous dites là, Madame Grubach, » répondit K. « Je suis du moins de votre avis en grande partie, mais je vais encore plus loin que vous. Ce n'est pas seulement quelque chose de savant, c'est un néant ridicule. J'ai été victime d'une agression, voilà le fait. » Si je m'étais levé à mon réveil sans me laisser déconcerter par l'absence d'Anna, et si j'étais allé vous trouver sans m'occuper de ce qui pouvait me barrer le chemin, si j'avais déjeuné pour une fois dans la cuisine, et si je m'étais fait apporter par vous mes habits de ma chambre, bref, si je m'étais conduit raisonnablement, il ne serait rien arrivé, tout aurait été étouffé dans l'œuf. Mais on est si peu préparé. Donc le thème du « on », c'est-à-dire de l'accusateur anonyme, du jugement anonyme qui plane déjà sur l'accusé, à ce thème-là vient s'ajouter le thème de la compréhension. Il précise qu'il ne comprend pas, et la logeuse dit elle-même qu'elle ne comprend pas, mais qu'elle a l'impression qu'on n'est pas non plus obligé de comprendre. Alors ça va évidemment être le thème central est le thème qui va courir d'un bout à l'autre du livre. Il vous arrive des choses, mais d'une part, on ne les comprend pas, et d'autre part, on a l'impression qu'on n'est pas obligé de les comprendre. Et même probablement qu'on est obligé de ne pas les comprendre, comme il deviendra évident peu à peu. Et la phrase alors de Joseph K., ce n'est pas seulement quelque chose de savant, c'est un néant ridicule. Ah ben voilà, je retrouve ce que je voulais lire. Ah oui, je me suis arrêté tout à l'heure, j'ai eu tort. Je voulais en lire plus. Mais comme j'avais perdu la compréhension de mes notes, chose qu'on ne comprend pas, n'est-ce pas ? La lecture du procès est d'ailleurs tout à fait bizarre, puisque c'est un livre inachevé. C'est-à-dire que, à l'image de l'histoire qu'il raconte, le livre est plein de trous et d'incertitudes. Et effectivement, je peux donc reprendre.
Le vêtement est très... très important hein, dans tout ce que vous venez de dire.
Alors bon, il y a l'histoire, uniforme, l'histoire des costumes, évidemment, ouais. Qui porte quel costume est-ce qu'il faut porter, etc. Et puis alors, il y a une allusion très brève à Mademoiselle Bürstner. Et ça, ça va être un thème constant dans le livre qui paraît un thème secondaire. Et quand j'avais lu le procès la première fois, c'est-à-dire il y a 40 ans, j'avais pas été frappé, comme je l'ai été quelques années plus tard, par cette présence très inquiétante des jeunes femmes dans tout le livre. Si bien qu'on finit par se demander s'il y a un rapport entre ces jeunes femmes et l'accusation. Dans toute la présentation qui a été faite de Kafka par Max Brod et par toute une critique talmudiste, il faut bien dire, les femmes ont été tout à fait gommées. La faute, c'est simplement une faute envers Dieu. Et en leur lisant 10 ou 15 ans après, et encore plus quand je l'ai relu là, cette fois-ci, j'ai été frappé par l'apparition constante de jeunes femmes qui représentent toutes ou des désirs sexuels ou même des fautes sexuelles. Et ça, c'est trop insistant pour que ça ne soit pas lié, sans doute, à l'accusation. Et alors, il y a même celles de ces jeunes femmes qui sont liées elles-mêmes à l'accusation par le fait qu'elles appartiennent au monde de la justice. Et d'ailleurs, ensuite, ça va être d'abord auprès de cette jeune femme, de Mademoiselle Bürstner, qui est la première qui apparaît, ça va être auprès d'elle qu'il tient à se justifier. Et alors, là, il se justifiera simplement du fait qu'on ait pris la chambre de cette jeune fille pour l'interrogatoire. On ne l'a pas fait l'interrogatoire dans sa propre chambre, mais dans celle de Mademoiselle Bürstner, dans la table de nuit, il a été accaparé par le brigadier comme bureau, en somme, de l'accusation. Alors, il a été convoqué par la justice. Et de façon très bizarre, il a reçu un coup de téléphone pour lui dire que le dimanche suivant, on l'attendrait à tel endroit. Mais on ne lui a pas dit l'heure. Et il ne s'est pas inquiété de ça. Et puis il s'est dit, tiens, je vais y aller quand même. Et puis je vais y aller à 9h, puisque c'est en général à 9h qu'ouvrent les bureaux. Il avait pensé qu'il reconnaîtrait de loin la maison à quelques signes dont il n'avait encore aucune idée ou à un certain mouvement devant ses portes. Mais la rue Saint-Jules, où le bâtiment devait se trouver et à l'entrée de laquelle il s'arrêta un instant, ne présentait de chaque côté qu'une longue série de hautes maisons grises et uniformes, grandes casernes de rapport qu'on louait à de pauvres gens. Par ce matin de dimanche, la plupart des fenêtres étaient occupées. Des hommes en bras de chemise s'appuyaient là où tenaient de petits enfants au bord de la coudoir avec prudence et tendresse. À d'autres fenêtres s'élevaient des piles de draps, de couvertures et d'édredons au-dessus desquels passait parfois la tête d'une femme échevelée. On s'appelait, on se lançait des plaisanteries d'un côté à l'autre de la rue. L'une de ces plaisanteries fit beaucoup rire aux dépens de K. Il y avait tout le long des maisons, à intervalles réguliers, de petits étalages de fruits, de viande ou de légumes, un peu au-dessous du niveau de la rue. Pour y accéder, il fallait descendre quelques marches. Des femmes allaient et venaient là, d'autres conversaient sur l'escalier. Un marchand de quatre saisons qui criait ses denrées faillit renverser K avec sa baladeuse. Au même moment, un gramophone, qui avait usé sa première vigueur dans des quartiers plus luxueux, entonna un hymne vainqueur. K s'enfonça lentement dans la rue, comme s'il avait eu le temps maintenant, ou comme si le juge d'instruction l'avait vu par quelques fenêtres et savait qu'il était présent. Il était un peu plus de 9h. La maison était assez loin. Elle avait une façade extraordinairement longue et une porte de formidable dimension qui devait avoir été percée pour le charroi des marchandises des divers dépôts qui entouraient la grande cour. Les portes fermées et dont certains portaient des noms de firmes que K connaissait par la banque. À l'encontre de ses habitudes, il s'occupa minutieusement de ses détails et s'arrêta même un instant à l'entrée de la cour. Près de lui, assis sur une caisse, un homme pieds nus lisait le journal. Deux jeunes garçons se balançaient aux deux bouts d'une voiture à bras. Devant une pompe, une grêle fillette en camisole se tenait debout et regardait K pendant que sa cruche s'emplissait. Dans un coin entre deux fenêtres où pendait du linge sur une corde. Non. Dans un... C'est assez difficile à lire car c'est mal écrit. C'est-à-dire qu'il y a des phrases, n'est-ce pas que... Alors, est-ce que c'est le style de Kafka? Est-ce que c'est le style de Vialat? Je ne sais pas. Mais ça n'est pas facile à lire comme organisation de la phrase. Puis peut-être que je suis fatigué. Continuons.
Alors, où en est-il, Car?
Différentes entrevues avec différentes personnes plus ou moins liées à la justice. Mais il ne sait pas exactement quels sont ces liens. Il a vu un avocat, il a vu un greffier. Et enfin, quelqu'un lui conseille de voir un autre personnage qui va, paraît-il, être très important pour lui et qui est le peintre qui fait les portraits des juges. Et c'est ce passage très célèbre que je voulais lire. Alors, il trouve ça d'abord assez bizarre comme idée, puis il finit par se rendre chez le peintre en question. L'acquittement apparent, dit le peintre, n'a pas l'air de vous paraître avantageux. Peut-être préféreriez-vous l'atermoiement illimité. Dois-je vous expliquer le sens de l'atermoiement illimité? Car fit oui. Le peintre s'était renversé confortablement sur son siège, la chemise ouverte sur la poitrine et une main passée dessous dont il se caressait les flancs. L'atermoiement illimité, dit-il, s'arrêtant un instant pour regarder devant lui, comme s'il cherchait une explication parfaitement pertinente, l'atermoiement illimité maintient indéfiniment le procès dans sa première phase. Il est nécessaire pour y parvenir que l'accusé et son auxiliaire, mais particulièrement l'auxiliaire, restent en contact constant avec la justice. Je vous le répète, cela n'exige pas une aussi grande dépense de force que l'obtention de l'acquittement apparent, mais il faut peut-être faire encore plus attention. On ne peut pas perdre des yeux le procès. Il faut aller chez le juge intéressé à intervalles réguliers, y retourner à toutes les grandes occasions et chercher de toutes les façons à se conserver ses faveurs. Si on ne le connaît pas soi-même, il faut faire pression sur lui par des juges que l'on connaît, sans renoncer pour cela toutefois à lui parler directement. Si on ne néglige rien, on peut se dire avec assez de certitude que le procès ne sortira pas de sa première phase. Sans doute ne cesse-t-il pas, mais l'accusé peut être à peu près aussi sûr de ne pas être condamné que s'il était en liberté. La prolongation indéfinie présente sur l'acquittement apparent l'avantage d'assurer à l'accusé un avenir moins incertain. Elle le préserve de l'effroi d'une subite arrestation. Il n'a pas à craindre avec elle de se trouver soudain obligé d'assumer les pénibles démarches qu'entraîne toujours la recherche de l'acquittement apparent, au moment où les circonstances s'y prêtent le moins pour lui. Évidemment, l'atermoiement illimité entraîne aussi pour l'accusé certains désagréments dont il ne faut pas négliger l'importance. Je ne veux pas parler du fait qu'il ne se trouve jamais libre. Il ne serait pas non plus à proprement parler avec l'acquittement apparent. Il s'agit d'autre chose, en effet. L'instruction ne peut être suspendue sans au moins un semblant de cause. Aussi faut-il qu'elle se poursuive théoriquement. On doit donc de temps en temps prendre certaines dispositions, organiser des interrogatoires, ordonner des perquisitions, etc., etc. Il faut en un mot que le procès ne cesse de tourner en rond dans le petit cercle auquel on a artificiellement limité son action. Cela comporte évidemment pour l'accusé certains désagréments qu'il ne faudrait cependant pas exagérer non plus. Tout cela reste en effet apparence. Les interrogatoires, par exemple, sont très courts. Si on n'a pas le temps ou l'envie d'y aller, on peut s'excuser quelquefois. On peut même, avec certains juges, régler d'avance l'emploi du temps de toute une période. Il ne s'agit au fond que de se présenter de temps à autre au magistrat pour faire son devoir d'accusé. Le peintre n'avait pas fini que K. remettait déjà sa veste sur son bras et se levait pour s'en aller. « Il se lève déjà !» criait-on derrière la porte. « Vous voulez déjà partir ?» demanda le peintre en se levant aussi. « C'est certainement l'air qui vous chasse d'ici, j'en suis fâché. J'aurais encore bien des choses à vous dire. J'ai dû me résumer beaucoup trop succinctement, mais j'espère m'être fait comprendre. »
C'était le quatrième de 9 épisodes de la journée Kafka d'Isabelle Huel, Jacques Taroni et Jean Dave, diffusé pour la première fois sur France Culture le 17 septembre 1983. Téléchargement et réécoute sur le site de France Culture à la page des nuits et sur l'application Radio France.